Le Forum de l'aménagement durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au Forum de l'aménagement durable. On démarre cette première session, cette première table ronde. Il est toujours avec nous, c'est François Rieussec, le président de l'UNAM, l'Union Nationale des Aménageurs. Bonjour François. Nous ont rejoint Razia Madi. Bonjour Razi.
Bonjour.
Vous êtes directeur général associé de New Stank Cities, auteur, enseignant, stratégiste des sujets d'aménagement urbain et ex-député. Bienvenue à vous. À vos côtés, Jean-Marc Hoffner, président du conseil stratégique de l'école urbaine de Sciences Po. En tout cas, c'est votre dernière aventure après un long passé de chercheur. Jean-Marc est également auteur anachronisme urbain, voilà, dont on parlera dans un instant, aux presses de Sciences Po. On démarre, si vous le voulez bien, chers amis, avec ces nouveaux enjeux de l'aménagement. Je vous laisse, François, poser le cadre du sujet. C'est vrai que les enjeux, il y en a, mais on a l'impression qu'ils sont encore plus aigus cette année, en cette période. Mais
oui. Donc, merci à Razi Hamadi et à Jean-Marc Hoffner de nous consacrer cette partie de matinée. Donc, nous avons fait appel à eux parce que ce sont des praticiens. Et en même temps, ils ont une vision large, puisqu'ils ont eu des fonctions politiques. Ils ont cette sensibilité sociétale. Et notre enjeu à nous est toujours confronté ou bordé par le politique, les politiques nationales, hein, puisqu'on ne cesse d'avoir des réglementations qui sont remises sur le métier très régulièrement. Et puis, elles sont appliquées régionalement, localement et finalement opérationnellement dans nos projets. Et donc, c'est intéressant de replacer notre pratique opérationnelle dans cette vision plus large à 360 degrés que vous pouvez nous apporter. Et également en intégrant toutes ces mutations auxquelles vous êtes particulièrement sensible, puisque Razi Hamadi a aussi commis un ouvrage très récemment sur justement tous ces enjeux différenciés.
Razi, justement, on n'a pas votre ouvrage pour le montrer. Je crois que c'était
sur les défis. Ce matin, nous étions auditionnés avec, d'ailleurs, certains qui étaient vos élèves par le passé à l'école urbaine par le président du CNH. Et j'ai laissé l'ouvrage que je devais amener pour le visuel sur la table du député qui nous auditionnait sur la situation actuelle.
Il est entre de bonnes mains.
Il est entre de bonnes mains, oui, sachant qu'il l'avait déjà. Mais les enjeux aujourd'hui, ils sont là finalement où ils ne sont pas traités. J'ai envie de commencer comme ça, de manière un peu provocateur. Je vais vous donner 3-4 exemples très rapidement pour introduire notre sujet. Premièrement, prenons les émissions de CO2. Si on traite les émissions de CO2, on doit donc traiter la transition énergétique des politiques d'aménagement à travers les externalités en termes d'émissions de CO2. Or, aujourd'hui, on ne les aborde qu'à travers le prisme de la performance énergétique. En résumé, aujourd'hui, on dépense 6 milliards d'euros par an, 2 milliards de dépenses publiques budgétaires et 4 milliards de certificats d'économie d'énergie, pour un résultat qui, selon l'ADEME et son étude de 2020, évoque une baisse de consommation énergétique dans les bâtiments, logements et aménagements ayant respecté les normes, équivalent à moins 2,26%. Et sur le CO2, si je consomme beaucoup d'énergie en autoconsommation avec des panneaux solaires, je ne respecte peut-être pas la RE, la RT ou la RZ, mais je suis en zéro émission. Premier point, l'activité aujourd'hui de nos chercheurs, elle est là. Et réconcilier la recherche avec la décision publique, elle est d'autant plus importante qu'aujourd'hui, on est face à des anachronismes, pour ne pas paraphraser M. Hoffner, qui sont quand même très choquants. Le rappel d'ailleurs maintenant sur la sobriété, dans un des deuxièmes objectifs de l'aménagement, lorsqu'on parle de ce fameux département français artificialisé tous les ans, qui est rappelé régulièrement comme un chiffre faux. D'ailleurs, si on artificialisait l'équivalent d'un département français par an, il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour se rendre compte qu'au bout de 20 ans, il n'y aurait plus de forêt. Pas juste. C'est juste une évidence.
On a une idée justement de l'artificialisation. Qu'est-ce que ça représente exactement?
On est à peu près, je parle sous le contrôle de monsieur le président, des deux présidents à ma droite, on est entre 20 et 25 000 hectares par an. Alors là, pareil, c'est bien que vous posiez cette question parce que deuxième objectif de l'aménagement, la transition. Alors si on ne veut pas être idiot et brasser de l'air, on va regarder ce qui s'écrit de manière sérieuse et de très actuel. Je ne vais pas parler de la saison 1 et de la saison 2 dans la revue Urbanisme, non pas dans Playboy ni Pif Gadget de M. Hoffner sur Lausanne, mais je vais traiter du rapport de synthèse du GIEC de la semaine dernière. Quand vous regardez sur l'habitat et le bâti, quelle est la première mesure qu'évoque le GIEC pour la transition de l'aménagement et de nos territoires? Un truc très simple qu'on dit depuis 20 ans, la réduction de la distance emploi-logement. Alors si on regarde ça par exemple, deuxième objectif, et je m'arrêterai là pour ne pas monopoliser la parole, eh bien on se rend compte qu'à ce jour, on n'a toujours pas de politique publique qui permet de planifier et de programmer le foncier productif et économique, synchronisé et en lien avec ce qui s'appelle le foncier lié au résidentiel, résidentiel existant ou à venir. D'où le fait que certains appellent par exemple à la création de couples de planification dans les textes urbanistiques qui soient la région et le SCOT, voire l'inter-SCOT. Mais aujourd'hui, si on parle de ZAN et qu'en même temps, vous écoutez un ministre parler de ZAN à 10h du matin à la radio et à midi, vous écoutez la même radio et vous écoutez le ministre de l'Industrie, il va vous dire, dans les deux ans, l'objectif est d'atteindre 12% de notre part de PIB en industrie. 12%, on est à 10, ça veut dire 2% de plus. 12%, c'est le niveau de la Grèce, hein. c'est pas l'Allemagne, c'est 12% de la part de PIB en industrie. Olivier Luanzi, ancien délégué à l'industrie et senior partenaire stratégique consultante chez PwC, spécialisé sur ces questions aujourd'hui, va vous dire 2% de PIB, c'est 50 000 hectares de foncier dédié à l'industrie qu'il faut aujourd'hui artificialiser. Enfin, et pour finir, l'objectif de l'aménagement, transition CO2, compacité lien logement-emploi, activité foncier productif, biodiversité. Et j'en termine par là. Et là, c'est véritablement le triangle des Bermudes de la décision publique, parce que très clairement, on a aujourd'hui véritablement chez les chercheurs et sur ceux qui travaillent sur le sujet un véritable débat, une véritable discussion autour de l'ENAF. C'est-à-dire que pour raisonner par l'absurde, aujourd'hui une méga bassine, c'est une surface agricole. On n'est pas que sur de l'artificialisation. Ouais. On imperméabilise totalement, on est sur 25 terrains de foot. Donc à un moment donné, si on veut parler biodiversité, on parle biodiversité. Si on veut parler foncier productif, on parle foncier productif. Si on veut parler réduction des émissions de CO2, on parle de réduction de CO2. Mais les conventions citoyennes, c'est bien, mais quand elles doivent parler des problèmes des gilets jaunes, et qu'on voit que la principale mesure qui ressort, c'est le ZAN, avec un périmètre et des critères qui sont discutables, on peut douter de la situation du débat, de la même façon que lorsqu'ils doivent discuter de la fin de vie, on en sort sur les conditions des soins palliatifs, versus le débat d'hier. Bon,
on va rester sur notre sujet, parce qu'il y en a beaucoup.
Juste pour dire quelque chose d'important, je pense que la compacité et la sobriété foncière est une perspective urgente et nécessaire, tout de même.
Mmh. On retient donc effectivement certains anachronismes urbains, pour reprendre votre formule, Jean-Marc, effectivement, sur l'allocation des ressources, le périurbain, le rôle de l'industrie. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous pouvez compléter ce que vient de dire Razi?
Oui, je pense qu'on va être assez d'accord, même si on ne va pas employer les mêmes mots. Peut-être une note de bas de page pour les auditeurs. L'ENAF, ce n'est pas le célèbre pâté breton, c'est les espaces naturels, agricoles et forestiers. Voilà. Et on peut penser qu'il s'y passe plein de choses intéressantes, des changements d'usage dans ce gros paquet, parce que ces espaces naturels, agricoles, forestiers, c'est 90% du territoire. Hein. Quantitativement, c'est là où ça se passe. Et effectivement, moi, j'ai le sentiment qu'on n'est peut-être pas vraiment sur de nouveaux enjeux, mais des enjeux qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas été pris en compte. Parce que l'action publique, mais plus globalement aussi le monde professionnel, ne regarde pas au bon endroit. Je vais prendre deux exemples.
Oui.
On continue à penser que la France est coupée entre les villes et les campagnes. Et tout est fait pour ça. Hein, quand on a des statistiques, là on pourrait avoir avec l'Eurostat, les statistiques européennes, des découpages intéressants à travers des gradients de densité. Ben, ces gradients de densité, on continue à les utiliser pour couper la France en deux. Et on sait bien, ou on devrait savoir, qu'entre les deux, il y a un gros tiers de la population qui habite ce qu'on appelle le périurbain, ce qu'on appelle l'entre-ville, ce qu'on appelle les zones de densité intermédiaire, ce qu'on appelle plus méchamment les étalés, puisque ce périurbain il a été produit depuis 40 ans par ce fameux étalement urbain contre lequel, loi après loi, l'État essaie de lutter. Voilà. Et il serait temps de comprendre, pour le coup, que après 40 ans de lutte, ça a échoué. Tout le monde a été pompier pyromane.
Ce périurbain, c'est quoi, pour donner une idée? C'est 20-30 km autour des villes, des moyennes villes?
Alors, c'est soit effectivement la périphérie autour des villes, oui. Hein, quand on commence à avoir des lotissements pavillonnaires, mais ça peut être aussi des campagnes qui vont bien. Il y a des campagnes dynamiques démographiquement et qui s'urbanisent. Voilà. Alors, effectivement, la fragmentation n'est pas une bonne chose. La compacité est un mot d'ordre intéressant pour les villes traditionnelles, mais aussi pour ce périurbain. Mais ce périurbain, il est à prendre en compte, il est à réparer, à réagencer. Et je pense qu'en matière de transition écologique, c'est là où ça se passe finalement. C'est là où ça se passe parce que c'est là où il y a le plus de choix à faire. Il y a de l'espace, un espace qui est forcément en concurrence par rapport à des usages nombreux. Et voilà, premier exemple, ce périurbain qu'on oublie. Et tout est fait pour qu'il se soit oublié. Il y a peu de portage politique. Moi, je plaide souvent auprès des présidents des conseils départementaux pour qu'ils s'intéressent à ce sujet. Les régions ont une vision un peu lointaine pour le moment des questions oui. d'aménagement. Et les métropoles pensent aussi un peu que de l'autre côté, il y a certes du monde, mais que ce n'est pas non plus leur boulot.
Donc on raisonne ville-campagne et on oublie ce périurbain voilà. qui concentre pourtant beaucoup de gens.
Qui concentre beaucoup
avec
de gens.
Avec des problématiques, on les a vues, de logement, surtout de transport, parce que c'est voiture obligatoire, bien évidemment, avec les problèmes qui s'en suivent quand on est en pleine crise énergétique, notamment.
Exactement. Alors, pour parler ordre de grandeur, parce qu'on les oublie, oui. la transition en matière de déplacement, ça ne se passe pas dans les grandes villes. 80 à 90% des kilomètres motorisés parcourus dans un département, c'est en voiture. Voilà. Donc, c'est là où ça se passe. On peut faire tout ce qu'on veut dans les grandes villes et il y a de bonnes raisons de faire plein de choses intéressantes, mais ça ne change pas grand-chose dans l'équation de la décarbonation. C'est bien dans ce périurbain et dans les déplacements plutôt de moyenne distance qu'il faut regarder.
C'est vrai. Non. Et on a l'impression que, juste François, c'est vrai qu'avec un prisme parisien qui est centre de décision, quand on est tous venus, peut-être pour beaucoup d'entre nous, en métro, avec les transports, avec les trottinettes, quoique bon, ça va être bientôt du passé, ou les vélos, on a l'impression que ce sont des réflexions qu'on oublie. Alors que dès qu'on sort un petit peu dans les territoires, comme on dit, on voit que bah voilà, le véhicule est quasi indispensable, puisqu'on a des distances bien sûr qui sont énormes, et bien sûr une offre de transport en commun très, très faible, enfin, qui ne pourrait pas suivre. François Rieussec.
Oui, non, mais on partage bien votre analyse. C'est-à-dire que c'est Olivier Piron qui nous faisait remarquer qu'en 1968, il y avait 9 millions d'habitants dans les grandes villes de plus de 100 000 habitants et que 50 ans après, il y a toujours les mêmes 9 millions dans les mêmes villes. Et donc, il y en a eu qui ont une croissance, évidemment, d'autres qui ont perdu des habitants, comme Paris. Mais ce qui signifie que les 17 millions d'habitants de croissance nationale, hein, on est passé de 50 millions à 67 millions, se sont installés, effectivement, dans ces périphéries de ces grandes villes. Maintenant, la question, nous partageons évidemment votre diagnostic. La question, c'est comment, une fois que les diagnostics sont posés, ils commencent à l'être, comment intervenir sur les décisions politiques, sachant qu'on a le sentiment que ce sont les grandes métropoles qui managent la politique urbaine.
Razi, une piste de réponse, solution peut-être.
Oui, alors, moi je crois qu'aujourd'hui, dans une période où on vous dit il faut faire confiance à la science, il faut écouter les chercheurs, attention aux fake news, la transparence. Il y a quand même un sujet où aujourd'hui, on n'écoute pas les chercheurs. L'air du temps, qui est l'ambition des feuilles mortes, reste souvent la ligne directrice des discours ambiants. Ou des fake news, il y en a beaucoup. C'est bien le domaine des politiques publiques du logement et de l'aménagement. Par exemple, je vous donne un exemple très concret, c'est très intéressant ce chiffre des 9 millions. Par exemple, les 500 000 logements. Vous savez, régulièrement, on entend la France doit produire 500 000 logements par an.
Oui, on en est loin.
Alors, on en est loin, mais est-ce que quelqu'un a essayé de travailler à d'où vient ce chiffre de 500 000 en fait ? Moi, je ne dis pas qu'il est juste, je ne dis pas qu'il est faux. Mais on explique dans les lycées et dans les universités aux gens qu'il faut vérifier la source des chiffres. Donc là, on est entre personnes sérieuses, des chercheurs, des spécialistes. Il vient d'où le chiffre ? Est-ce que quelqu'un sait d'où vient le chiffre 500 000 ? Personne ? 2001. Ça date de 2001. Donc il y a bientôt 25 ans. Université Descartes, 500 000 logements. Est-ce qu'on a toujours besoin de 500 000 ? Peut-être plus, peut-être moins, ce n'est pas le débat. Où est-ce qu'on en a besoin ? Et c'est sur ça que je veux vous répondre. Où est-ce qu'on en a besoin ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent qu'il faut reconstruire la ville sur la ville. Pourquoi pas dans certains cas ? Pourquoi pas dans certaines zones ? Pourquoi pas en fonction de la biodiversité, de la compacité, de la qualité patrimoniale ? Pourquoi pas ? Mais ces mêmes qui vous disent qu'il faut construire la ville sur la ville, ils vous disent qu'il y a 6 millions de logements disponibles en France. Lesquels ? Où ? Parmi les 6 millions, il y en a 3,5 millions, c'est de la résidence secondaire. Je ne suis pas sûr que ma femme qui a un restaurant et qui a besoin de seconde cuisine et qui ne sait pas comment elle termine le mois pour faire fonctionner la cuisine lorsqu'elle ne les trouve pas, elle va les trouver parce qu'ils vont trouver leur emploi à Montreuil et habiter dans le bassin d'Arcachon, dans la résidence secondaire qui est considérée comme vacante et comptabilisée dans les 3,5 millions. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que la solution, elle est éminemment locale. Parce que de la même manière qu'il n'y a pas un rural et un urbain, il n'y a pas un périurbain. Il y a le périurbain avec plusieurs villes-centres moyennes. Il y a le périurbain avec la forte activité de la métropole centrale. Vous avez des métropoles centrales qui drainent avec eux l'ensemble du territoire et où la théorie du ruissellement existe. Vous avez des centres métropolitains qui ne bénéficient pas du développement, typiquement Marseille-Aix en Provence. Et le périurbain qui va autour. Donc, la solution, elle est éminemment locale. Et les aménageurs, les chercheurs, les organismes locaux et l'échelle de la décentralisation et le niveau pertinent dans le cadre d'un contrat. Un contrat entre l'État et les collectivités avec des objectifs de foncier économique, avec des objectifs de production de logements. Et c'est sur ça qu'on vient caler finalement, les polarités nouvelles. Parce que les polarités nouvelles, c'est ici un nœud de transport, ici de l'industrie. L'industrie, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Louis Gallois. Il y a moins de 3 semaines, il me dit, Razi, l'ami de l'industrie, c'est la ville moyenne. Parce qu'elle est suffisamment grande pour permettre de la ressource humaine et suffisamment petite pour permettre de l'aménagement pour le site productif, mais pour que les gens puissent aussi se loger. Donc, je pense que c'est au niveau local et avec une nouvelle gouvernance.
Solution locale, ville moyenne. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Marc Hoffner ?
Alors, quand on s'intéresse aux questions de résilience, il y a une réponse légitime et efficace, c'est la diversité des propositions. Si vous avez une seule route ou une seule ligne de transport aller d'un point à un autre, S'il y a un accident, ben, il y a plus d'endroit pour passer. Moi, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé pendant les confinements. On a bien vu que, suivant les trajectoires résidentielles, suivant les cultures des uns et des autres, chacun pensait se trouver mieux à tel ou tel endroit. Et ce tel ou tel endroit, ça implique qu'il faut accepter l'idée qu'on ne peut pas avoir un seul modèle comme doctrine urbanistique depuis des décennies, à savoir la ville compacte et dense. Ça, c'est une proposition. Moi, je parle de compromis. De toute façon, on est forcément dans des compromis. C'est comme la ville à taille humaine. La ville à taille humaine, c'est un compromis. Dans une ville à taille humaine, on peut s'attendre à marcher. Mais dans les petites villes, on marche très peu. Hein. C'est dans les grandes villes qu'on marche. C'est à Paris et à New York qu'on marche, c'est pas dans les petites villes. On peut s'attendre à avoir tout en bas de chez soi. Mais oui. Tout en bas de chez soi, c'est pareil. Il faut être dans une grande ville. Donc, tout ça est affaire de compromis. Le périurbain,
on le dit souvent. La ville de quart d'heure n'existe pas dans les villes moyennes ?
Il y a une ville du quart d'heure qui existe déjà, ça s'appelle le village.
Faut pas me lancer sur la ville du quart d'heure parce que je trouve qu'il y a de la supercherie intellectuelle là-dessus.
Non, mais je suis d'accord avec vous, on marche dans les grandes villes, on marche moins dans les petites villes.
En tout cas, l'idée des compromis, il y a des bons compromis. Pour les gens qui habitent le périurbain, qui l'ont souvent choisi, hein, la plupart des gens du périurbain, ils n'ont pas été chassés de la grande ville. Ils ont choisi le périurbain parce qu'ils ont une bonne distance. Ils ne sont pas loin de la grande ville et ils ont aussi une bonne distance par rapport à leurs voisins. Ils ont des voisins, mais pas trop près non plus. Voilà. Et alors, pour répondre à cette question, parce que sur le périurbain, il y a plein de chercheurs depuis très longtemps qui en parlent. Sur des tas de sujets, il y a une expertise, y compris publique, y compris officielle. Par exemple, sur les questions d'artificialisation des sols, il y a eu une expertise collective INRA-IFSTAR il y a quelques années qui dit tout. On n'a pas le sentiment que le législateur se soit emparé de ces informations pour faire son boulot. Donc, alors, il y a des crises partout, mais je pense que vraiment la relation entre l'élaboration de la loi, la préparation de la décision publique et l'expertise qui est là, mais qui est trop relativisée, ne fonctionne pas. Aux experts de faire en sorte aussi qu'ils soient mieux écoutés. Mais je pense que les informations sont là. Je donne un autre exemple. J'essaie d'être aussi bavard que mon voisin.
C'est compliqué.
Sur les oublis, sur ce qu'on ne regarde pas. Une bonne partie des préoccupations des politiques urbaines aujourd'hui, c'est la biodiversité, la sobriété foncière, etc. Mais en termes de stock sur lequel on peut agir, ces sujets... Il devrait être la priorité des politiques agricoles.
Bien sûr.
Il y a 50% de terres arables. On sait très bien que les oiseaux des champs se portent plus mal que les oiseaux des villes. La porosité des sols agricoles et par exemple des vignes du Médoc que je connais bien, c'est catastrophique. Ce sont des vides biologiques, ces terres. La politique agricole est très compliquée. Elle se passe du côté de l'Europe, des syndicats agricoles, etc., etc. Mais ce n'est pas normal en termes, pour le coup, d'un début de cohérence de politique nationale que le monde agricole ne soit pas convoqué à la table de cette question du zéro artificialisation net. On le sait pas forcément d'ailleurs, la forêt croît de 80 000 à 100 000 hectares par an en France. Hein. On n'est pas dans les déforestations brésiliennes, la forêt croît. L'enfrichement est un vrai sujet. Un habitant auquel on va dire « vous ne pouvez pas construire » et qui d'un côté a un champ de maïs dans lequel il ne faut pas trop se promener et de l'autre côté une friche agricole qui ne prend pas de repreneur, il va dire « il y a un truc bizarre là, pourquoi est-ce qu'on fait porter à la seule politique urbaine cette question ?» La politique agricole commune, elle subventionne des surfaces. La sobriété foncière, peut-être qu'elle s'applique aussi à l'agriculture. Voilà, donc je pense que c'est un problème, on peut dire, de cohérence de l'action publique nationale, mais que là-dessus, ça deviendrait totalement contre-productif, y compris en termes d'argent public dépensé, de focaliser sur ce seul levier de l'action publique urbaine. Alors peut-être qu'il est plus facile à manipuler que d'autres, mais ça se passe aussi souvent ailleurs.
les nouveaux enjeux de l'aménagement avec nos invités ce matin. Messieurs, c'est vrai que depuis ce matin, on parle des constats qui sont voilà, ce qu'il faudrait faire, ce qu'on ne fait peut-être pas assez. C'est un petit peu désolant et je ne voudrais pas qu'on désespère auditeurs et les spectateurs ici présents. Voilà, François Ressec, vous m'avez dit effectivement en préparant ce forum, l'idée c'est de l'orienter solution. On voit qu'effectivement les aménageurs sont depuis quelques années, et peut-être que la crise sanitaire a augmenté tout ça, soumis à beaucoup de contraintes, hein, de plus en plus à différentes crises structurelles, conjoncturelles. Et pourtant, aujourd'hui, vous avez certaines pistes de solutions, en tout cas vous avez des propositions à faire, on voudrait les entendre et puis on fera réagir nos invités.
Oui, bah écoutez... tout d'abord, au niveau de la planification, alors, je crois que nous avons tous conscience qu'il faut changer nos modes d'action, aller dans une amélioration notamment de la sobriété foncière, de l'amélioration de toutes nos pratiques et toutes les règles sont là pour nous le rappeler d'ailleurs. Mais autant nous sommes favorables, autant je pense qu'il faut arriver à différencier des politiques. Donc c'est vrai que cette loi... qui a un côté très arithmétique, national, qui va être décliné dans les PLU, est assez violente pour nous et risque de favoriser ce qu'on appelle le diffus et non pas un regroupement des fonciers. Donc je pense qu'il faudrait qu'on arrive à regrouper dans les planifications les secteurs à aménager pour éviter la division foncière à l'unité, l'éparpillement. Hein ? Donc là, la question, c'est comment arriver à ce que les politiques locales se saisissent de cette question de planification toute simple. Hein. C'est vraiment du béaba de fabricants de PLU, de bureaux d'études de PLU. Nous avons aussi comme proposition au niveau de la planification et de la façon de faire le fait de contractualiser les projets, la planification, en faisant intervenir les opérateurs. C'est-à-dire qu'on se rend compte que cette division entre la sphère publique d'un côté et la sphère privée qui réalise de l'autre ne permet pas une vraie prise en compte des besoins des concitoyens et non plus de la faisabilité des projets qui vont être autorisés et planifiés. Et bien souvent, la pratique de l'opérateur, c'est de demander une remodification des règles de PLU qui viennent d'être votées parce que les règles votées ne permettent pas la sortie d'opération. Donc, nous proposons une contractualisation entre les opérateurs et les collectivités sur une planification. Cette idée qui paraît basique n'est pas tellement admise. On reste du côté public sur cette division volontaire. Donc, on a même proposé de faire des contrats d'opération anti-spéculatifs qui seraient de programmer un projet en amont de la planification de façon à éviter de donner une valeur foncière élevée aux fonciers avant autorisation. C'est-à-dire que c'est le projet qui sera négocié entre l'opérateur, la collectivité et les propriétaires fonciers et qui deviendra ensuite la règle. Vous voyez ? Donc on est, nous, sur une évolution des relations entre les faiseurs et la sphère réglementaire et locale. Qu'en pensez-vous ?
Alors, retour de la planification, le plan.
Alors, ben, là-dessus, non seulement j'en pense du bien, mais j'irai même, on a eu l'occasion d'en discuter avec François Rieussec, et je salue aussi Nicolas Gravitte, pour Eiffage Aménagement, qui connaît bien le sujet. Mais déjà, avant même la planification, prenons un cas très concret. Aujourd'hui, on vous dit, du côté public, on n'y arrivera pas sans le privé. Et le privé vous dit, on n'y arrivera pas sans le public. Mais si on prend aujourd'hui, par exemple, le sujet qui est un petit peu sous les feux de la rampe, qui est celui dont on parle le plus, souvent inversement proportionnel au nombre de permis de construire délivrés en prenant comme point de départ cette surface. Je prends les friches. Je parle des friches. Une collectivité, aujourd'hui, vous allez la voir et vous dites, on bosse ensemble. Il y a tant d'hectares. On va faire une programmation. Il y a les études. On va voir la qualité des sols. On arrive à tant d'euros de coûts de dépollution par mètre carré. D'ailleurs, les financements, c'est sur ça qu'ils devraient être indexés. et pas sur la rétention du foncier qui est complètement débile. Aujourd'hui, bah, si je dois dépolluer à 1 000 euros du mètre carré, j'ai peut-être une aide qui est différente selon le coût de la dépollution, si c'est deux fois moins ou trois fois moins. Mais au moment où la collectivité dit « Ok, j'ai travaillé avec vous, aménageur local, c'est super ce que vous avez fait, c'est durable, il y a du vert, il y a de la polarité, il y a de la mobilité, il y a de la mutualité, il y a de la mixité fonctionnelle. » Au moment où la collectivité candidate, elle candidate sans le privé. Et ensuite, elle consulte, et qu'importe que vous ayez travaillé 5 mois, 6 mois, que vous avez mobilisé vos équipes pour que lorsqu'elle fasse son dossier fonds friche, elle soit éligible, à la fin, il se peut que ça ne soit pas vous. Ben ça, ce n'est pas normal. Si on veut faire travailler les gens de manière partenariale dans les rouages de la planification, ça, c'est quelque chose à changer. On serre la main avec la collectivité, on part en direction du fonds friche, on travaille le projet ensemble, à la sortie, on y est ensemble. Sur la planification, enfin, pour terminer, c'est un sujet à la fois environnemental et d'aménagement du territoire. Les émissions de CO2 du logement en France, c'est 80 gigatonnes ou mégatonnes. D'accord ? Les 52 sites industriels les plus émetteurs, c'est 40. Tout le logement, les 52 émetteurs industriels. Tous les mois, on a, grâce à France Industrie, un monitoring du nombre de sites industriels créés en France. Le mois dernier, on a un solde positif de 10. Comment, à un moment donné, la création d'un site industriel permet d'avoir une politique commune à l'échelle régionale, à l'échelle du SCOT, avec les aménageurs, pour dire on a 150 ouvriers qui débarquent, des ingénieurs, qu'est-ce qu'on a prévu dans les années qui viennent en termes de logement et de mobilité ? Je pense que ça doit être aussi ça le déclencheur et ça doit aussi être ça le point de départ. Vous aviez un aménageur et un promoteur important du sud-ouest de la zone de Toulouse. Airbus annonce la création de 1800 postes. À l'heure où on parle, vu les décisions du tribunal administratif sur l'artificialisation des sols qui divise par un facteur 7 la capacité à produire du territoire toulousain, on ne sait pas où on les loge.
Jean-Marc Hafner, sur cette idée de planification.
Oui, alors aujourd'hui, la fabrique urbaine, c'est d'un côté les documents d'urbanisme,
oui,
qui épuisent tout le monde parce qu'il y a une machine infernale qui fait qu'il faut les actualiser régulièrement, qu'il y en a en plus, qu'il faut les mettre en comptabilité, etc. Donc c'est vrai que c'est devenu un outil contraint. Et par ailleurs, c'est un outil qui est dans la norme et la réglementation et l'ordinaire. Il s'occupe de l'ordinaire. Donc, in fine, il s'occupe de la parcelle. Et ce n'est pas forcément très intéressant. Et puis, de l'autre côté, on a les grands projets. On a les grands projets qui, potentiellement au moins, peuvent être de l'ordre du projet qui coordonne différentes démarches, différents secteurs, qui s'intéressent pas seulement au bâti, mais aussi à ce qu'il y a autour, à la voirie, aux espaces publics, aux espaces naturels, etc. Et on voit bien que les grands projets sont plus trop dans l'air du temps, pour des tas de raisons, que la planification est un peu à bout de souffle parce que cette obsession sur la parcelle à la fin, est-ce qu'on peut construire ou pas ? Et ça part depuis le schéma régional d'aménagement maintenant, hein, avec une planification en poupée russe, comme il y a 50 ans. On considère que l'échelle supérieure doit finalement s'imposer au local, ce qui ne va évidemment pas du tout. Je pense qu'il y a inventé, moi j'ai appelé ça à un moment des petits projets malins, c'est-à-dire le projet, ce n'est pas juste en matière de construction, acheter 4 maisons individuelles et faire un bâtiment, c'est aussi s'occuper de ce qu'il y a autour. Parce que s'il y a plus de monde, ben, faudra repenser la voirie. Il y a des choses passionnantes à faire en matière d'innovation sur les questions de voirie et d'espace public, parce qu'il faudra effectivement peut-être intégrer ce qui est de l'ordre des espaces naturels pour avoir, non pas une mosaïque, mais avoir effectivement ce projet intégrateur qui est, je dirais, encore plus important pour ce périurbain, où là, les projets peuvent être très différents parce qu'il y a des endroits avec un périurbain dynamique où il faut polariser, densifier, permettre, oui, l'accès aux services collectifs. À d'autres endroits, ne pas trop forcément y toucher. Mais en tout cas, il y a bien une planification au-delà de la parcelle, une planification de l'ordre un peu de l'aménagement du territoire, comme on disait au temps de la DATAR, qui permettra aussi de, et c'est quelque chose qui m'est cher, de penser aussi les systèmes territoriaux. Hein. Les politiques publiques, elles sont très axées, vous savez, sur le dialogue avec les associations d'élus. Les associations d'élus, il y a les petites villes, il y a les ruraux, il y a les villes moyennes, il y a les grandes villes. Et évidemment, si on raisonne en catégories de ce type, on ne pense pas à ce qui fait les fonctionnements territoriaux d'aujourd'hui, c'est les interdépendances entre toutes ces catégories de territoires.
Donc planification, oui, mais à un échelon plus local, avec une vision sur le territoire.
Et avec une coopération. Hein, les grands maîtres de la planification urbaine, qui sont plutôt les Allemands, les Scandinaves, les Britanniques, ils ont des planifications à double flux, comme ils disent, hein, où chaque niveau de collectivité se parle et travaille pour de vrai.
Oui. Travaille pour de vrai. C'est pas le cas chez nous en France. On est
non. Non, pas franchement. Non, non. L'introversion.
Non, avec sa tête. Pas du tout. Il y a pas de.
Non, voilà. Mais moi, je vais pas appliquer l'inverse de ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Quand je vous dis non, c'est pas un jugement de valeur ou une croyance. Quand je vous dis non, c'est le rapport de l'inspection générale de l'administration, de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, de l'inspection générale des finances qui a été publié la semaine dernière. Quatre administrations centrales qui vous disent, par exemple, les CRTE, c'est pas efficace tel que ça fonctionne aujourd'hui. Parce que avant même que les collectivités coopèrent ensemble, les ministères ne coopèrent pas entre eux. Ah oui, le ministère du Développement Durable travaille sur le CRTE. Mais on ne peut pas faire des séminaires, des colloques, donner le grand prix d'urbanisme à Franck Boutet et se féliciter que le prix Nobel d'économie Esther Duflo, qui éparpille la rénovation et la politique publique énergétique française façon puzzle, soit française. Et ensuite, ne pas s'inspirer de ce qui est dit. La transversalité, elle est nécessaire pour que les contrats fonctionnent. Donc, les ministères ne sont pas impliqués. On a un phénomène de chef de file, c'est-à-dire que le gouvernement, ou en tout cas le ministère, dit « Moi, je travaille avec tel chef de file au niveau local. » Donc, les collectivités qui devraient être partenaires, par exemple, la petite commune, qui est à la limite du SCOT, qui aurait du foncier disponible, elle n'a pas envie de rentrer dans le schéma, ben parce qu'elle, elle ne voit jamais le préfet, elle ne voit pas le fléchage des fonds, elle ne voit pas comment elle va bénéficier du contrat de relance et de transition. Et on a aussi une rationalisation des objectifs dans le temps et dans leur finalité qui est mal définie. Aujourd'hui, il n'y a aucun élu qui est capable de vous dire « Mon CRTE me permet dans 3 ans d'arriver à ça ». On sait que ça va financer des choses. On sait que tel projet qui était déjà dans les bacs va être financé grâce à ça. On sait que tel... Voilà, mais on... Et la mutualisation et des moyens et des fonds est mal agencée. Donc aujourd'hui, on ne sait peut-être pas faire de la planification comme d'autres parce qu'on ne sait plus contractualiser.
François Riossec, une petite réaction et après on continuera dans les pistes de solutions et vos propositions hein, très concrètes pour justement desserrer les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les aménageurs.
Oui, bah écoutez, moi ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment Jean-Marc Hoffner peut, vis-à-vis d'opérateurs, je dirais, dans les différents territoires, avoir quel conseil vous donneriez pour que... ce ressenti de base des opérateurs, ce savoir-faire et cette conscience hein, des écarts entre des planifications qui n'atteignent pas leur but. Nous, on sait que les planifications n'atteignent pas leur but et on sait qu'on a des besoins qui ne sont pas pris en compte dans les planifications. Donc ça, c'est le quotidien que nous partageons tous. Donc la question, c'est comment ce type de ressenti, ce type d'informations hein, qui sont... On a des observatoires, on peut quantifier ces besoins et les différencier, pourraient être mieux pris en compte par les planifications locales, les SCOT, voire le SRADET, puisque maintenant le SRADET va intervenir là-dessus. Donc comment vous verriez à ce que les opérateurs arrivent à intégrer cette pelote si compacte des acteurs de planification et des politiques ?
Alors, deux réponses très pragmatiques. Il y en a une qui n'est plus tellement dans l'époque, dans l'ambiance de l'époque. C'est l'exemple de Rennes. Les élus rennais, depuis toujours, discutent avec les opérateurs. Voilà, donc une confiance qui s'installe, une interconnaissance, voilà. Et c'est évidemment la base de la confiance. Et ensuite, chacun comprend le métier de l'autre et chacun peut intégrer les logiques multiples qui font la fabrique de la ville. Bon, ça, c'est un peu comme les ministères, ça passe tellement vite que personne n'a le temps de faire ses apprentissages et encore moins de fabriquer des relations de confiance. Une deuxième réponse, mais pourquoi pas, l'action publique peut aussi se poser et prendre son temps, et d'autant plus qu'il y a des urgences à traiter, paradoxalement. Deuxième réponse corporatiste, allez voir les agences d'urbanisme. Les agences d'urbanisme, personne ne sait ce que c'est. C'est des associations loi 1901, mais qui ont des missions d'intérêt général, qui sont partenariales, c'est-à-dire l'agence d'urbanisme à Bordeaux a travaillé avec l'État, la région, le département, les communes, la métropole, le port, la chambre de commerce et d'industrie, etc. Et ces agences, qui sont présidées par des élus, donc qui ont une légitimité politique, mais qui ont aussi et surtout une forte légitimité technique. Et ça, je pense que justement, cette articulation entre le politique et l'expertise, les agences le font plutôt bien, avec une certaine autonomie qui est à conquérir, mais qui est là. Et en tout cas, moi, dans mes expériences et dans ce que j'ai vu à Bordeaux, mais aussi ailleurs, ça peut assez facilement devenir des lieux où l'ensemble des acteurs de la fabrique urbaine, publics et privés, viennent, échangent, se connaissent et tentent, parce que ce n'est pas si simple que ça, de comprendre les logiques des uns et des autres, d'anticiper par rapport à la fabrication des plans d'urbanisme. Et puis, mais ce n'est pas si simple non plus en France, des trajectoires professionnelles, si je puis dire, où il y a un peu plus de porosité entre les milieux professionnels. C'est quelque chose, alors là encore, qui ne se décrète pas. Mais bon, allez regarder du côté des agences d'urbanisme. Il y en a une belle à Toulouse, il n'y en a pas à Montpellier. Georges Frêche a pensé pendant des décennies qu'il était à lui seul l'agence d'urbanisme, mais ça viendra un jour.
Donc le modèle rennais et les agences d'urbanisme à consulter. J'ai l'impression qu'en creux, ce qu'on entend, c'est plutôt améliorer le dialogue finalement entre les différentes parties prenantes. Et puis c'est vrai que c'est un monde complexe. Hein. De toute façon, il y a énormément de les aménageurs, les élus aussi. Tiens, on n'en a pas parlé. François Riossec, aujourd'hui, on dit un maire bâtisseur, maire battu. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu un coup de frein à main depuis 3-4 ans avec cette politique ZAN, hein, et un métier qui s'est compliqué pour vous. Là aussi, vous avez peut-être des pistes de solutions, en tout cas des propositions pour ces maires du côté de la TVA, etc.
Oui, alors effectivement, ce que nous avons subi, je crois, la suppression de la relation entre ce que fait le maire et les ressources de la commune. Vous savez que la taxe d'habitation a été supprimée, ce qui veut dire que lorsqu'un maire engage des nouveaux projets, eh bien, il n'a pas de retour sur investissement en quelque sorte.
Exactement.
C'est noyé dans une dotation globale que manage le préfet, et le préfet a souvent des injonctions envers le maire, vous devez faire, etc. Et le maire répondant, moi j'ai été élu pour ne pas faire, moi j'ai eu le cas de maire qui me disait, je ne veux pas faire, j'ai été élu pour ne pas faire, et on en connaît tous. Donc nous partageons une incitation qui serait la TVA maire bâtisseur, c'est-à-dire qu'au-delà de la moyenne des pratiques des trois dernières années, par exemple, hein, une commune a produit 200 logements les trois dernières années, eh bien, ce qu'elle ferait en plus, c'est-à-dire 250, par exemple, eh bien, il puisse y avoir un partage de TVA entre le national à laquelle est affectée la TVA et puis le local. Partager la moitié de 50 fois 40 000 euros, c'est un joli pactole, ça permet de faire un groupe scolaire. Donc ce serait une incitation pour le maire à faire de l'équipement public et à justifier auprès de ses habitants qu'en faisant et en faisant plus, eh bien, il permet d'équiper mieux la commune. Nous, opérateurs, on a souvent incité les élus à faire des projets en amenant des participations financières pour des équipements publics. Et ce serait une façon de retourner notre activité vers le maire. Voilà.
La question du financement avec cette proposition, une TVA maire bâtisseur, Azia Madi.
Écoutez, c'est un sujet chez New Stank Cities qui nous passionne. Qui nous passionne avec les heures passées devant les auditions au Sénat, à la fois dans le cadre de la PPL ZAN avec le sénateur Blanche. Salut d'ailleurs Cassandre Tarvic et Camille Herrion, qui sont journalistes à New Stank Cities et qui travaillent spécifiquement sur ces questions. Mais sur la question du financement, je vous le dis très simplement, là encore, il faut faire, confiance à la science et à la vérité, aux faits. La CVAE sera à l'aménagement et au foncier productif ce qu'a été la taxe d'habitation au logement. À partir du moment où la contribution sur la valeur ajoutée, vous la supprimez, il n'y a plus de lien financier entre l'incitation à produire et à donner du permis de construire pour du foncier productif, il se passe la même chose que ce qui s'est passé pour le logement en partie. C'est un argument parmi d'autres, dans un climat de difficulté. La TVA, c'est que ça reste une taxe sur la valeur ajoutée. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'aime bien discuter avec des spécialistes beaucoup plus informés que moi, même si c'est compliqué avec nos équipes, mais en tout cas bien plus intelligents aux fonctionnaires. Je n'ai trouvé personne capable de m'écrire le début de la formule, et j'en croise un, de la clé de répartition de la fameuse TVA en compensation. On voit un grand spécialiste qui a, Monsieur Schmitt, qui a œuvré auprès d'associations d'élus pilotes. Je ne sais pas si lui a cette formule, mais c'est petit peu...
On lui posera la question puisqu'il intervient juste après la prochaine tableau.
Il y a un nouvel opus d'Indiana Jones qui sort, mais je ne sais pas si lui va trouver la formule de compensation de la TVA. Mais les opérateurs publics comme les opérateurs privés et la planification au premier rang a besoin d'une chose, ça s'appelle de la visibilité. Qu'est-ce que je fais à l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et avec quels moyens? Si vous ne savez pas quels moyens vous avez à l'étape 2, l'étape 3, c'est compliqué. Alors à court terme et pour finir, je pense qu'il y a deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que je pense que sur un certain nombre de points, le sujet va avancer positivement sur le ZAN. Et ça, c'est à cause des retraites.
Alors, expliquez-nous.
Oui. Alors pourquoi? Parce que comme la première ministre a dit, je n'emploierai plus de 49.3. Hors texte financier, et qu'il y a un texte qui a été voté au Sénat. Compliqué de dire non par 49.3 à une proposition de loi, ou pour faire adopter un texte qui n'irait pas dans ce sens-là, vous voyez ce que je veux dire? Donc il va falloir trouver des compromis. Alors je ne dis pas que tout ce qu'il y a dans le texte du Sénat, de mon point de vue, est bien, hein, parce que par exemple, 1% par collectivité, de quelle collectivité on parle? Si on parle de la communauté la plus étendue de France, qui serait Arles, je crois, le 1% de Arles, est-ce qu'il équivaut au 1% des Lilas, qui est la plus petite ville de France, mais une des plus denses? Il y a un débat quand même. Bon, bref, passons. Mais en tout cas, je pense que ça va avancer positivement sur ce front-là. Deuxième sujet, qui est un point positif aussi pour l'UNAM, mais pour tous ceux qui veulent avancer et répondre aux besoins urgents qui se posent en termes de foncier, de production, etc., c'est qu'on reparle d'aménagement dans ce pays. Sincèrement, on en reparle. Certes, ça reste un petit peu un débat de spécialité, mais on reparle d'aménagement, d'urbanisme. Les gens vous disent « Ah, mais la mobilité, la logistique, les émissions CO2, le ZAN, les espaces naturels, ça avance. » Et donc, je pense que peut-être on aura l'émergence à l'initiative de l'UNAM, ou en tout cas des territoires, je ne sais pas, mais des conférences publiques de l'aménagement. Où va le territoire sur les 5-8 ans? Qu'est-ce qu'on prévoit comme entreprise à venir? Quels sont les grands axes stratégiques? Comment on s'insère dans des CRTE qui couvrent un peu plus de ministères? Comment on met de la transversalité et comment on répond aux objectifs de transition environnementale, mais aussi de production? La production n'est pas un gros mot. Et sans rentrer dans le débat croissance-décroissance, à la limite, si on ne veut pas parler de croissance, parlons de développement. Et le développement, c'est donner un emploi à chacune et à chacun. Le développement, c'est donner un toit à chacune et à chacun. Et bien, c'est aussi ne pas confondre densité et promiscuité.
Jean-Marc Hoffner, réaction. C'est bonne nouvelle. Donc, on a compris, on reparle du ZAN et puis on reparle d'aménagement.
Alors, dans la continuité, il y a effectivement à inventer un mode de développement pour des territoires en décroissance démographique.
Oui.
Ça, c'est un vrai enjeu qui est déjà là, hein, qui a été là dans d'autres pays, dans l'ex-Allemagne de l'Est, dans certains États nord-américains. C'est un sujet majeur, parce que même si aujourd'hui, on peut avoir le sentiment qu'il y a beaucoup de monde et qu'on devient tous malthusiens pour de bonnes ou de mauvaises raisons, l'INSEE a des prévisions démographiques qui sont en général assez fiables parce que les taux de fécondité sont ce qu'ils sont, c'est que assez rapidement et en gros en 2045, la population française commence à diminuer. Donc ça aussi c'est un enjeu majeur pour les constructeurs évidemment et pour les élus qui ont à s'occuper des communes qui sont dans cette situation. Alors que par ailleurs, il y a concurrence sur l'espace, malgré ce qu'on dit d'un peu faux sur l'exode urbain, beaucoup de monde dans les grandes villes et les métropoles, beaucoup de monde sur le littoral, sur tout le littoral maintenant en plus.
Et de plus en plus.
Alors, moi j'ai quand même une proposition qui va vous sembler un peu paradoxale, c'est que les constructeurs s'intéressent aussi au vide. Ils ne s'intéressent pas seulement au plein. Ils s'intéressent au vide pas pour y construire et transformer le vide en plein, mais pour faire du vide ce qui fait fonctionner la ville et les territoires. Alors, c'est quoi les vides? C'est l'espace public, c'est l'espace vierge. La transition de la mobilité, elle se joue beaucoup dans la manière dont on va réagencer les voiries. Il y a mille choses passionnantes à faire et c'est tout ce qui a à voir effectivement avec les espaces naturels, les trams verts et bleus, etc. Pour prendre une image, je dirais mobiliser un peu moins d'architectes et un peu plus de paysagistes. Et là, je crois que c'est aussi et surtout là que s'invente la vie. Je dis, c'est pas dans la maquette de l'architecte, c'est dans ce qu'il y a entre les bâtiments. Alors évidemment, c'est un peu peut-être paradoxal de tenir ce discours ici, mais là, de toute façon, personne ne s'en saisit vraiment. Hein, tout ce qui est voirie, on dit c'est trop compliqué, de toute façon c'est la voiture, c'est pas bien, faites pas bien. La vie urbaine, il est là. Et par ailleurs, en termes de trams vertes et bleues et d'espaces naturels, verts, etc., il y a aussi beaucoup de choses à inventer pour qu'ils deviennent de vrais équipements collectifs, si je puis dire. Mm-hmm. Parce qu'il y a aussi des modèles économiques à inventer pour ce faire. Et c'est ce fameux vide, ben c'est un plein biologique, mais c'est aussi un plein de la sociabilité urbaine.
Voilà, on arrive bientôt au terme de cette discussion.
Juste sur la rue. Oui. La semaine dernière, ou hier, a été publié le guide méthodologique de la rue commune, justement sur comment on se réapproprie la rue, la voiture disparaît, le trottoir, on l'adapte, accessibilité, végétalisation, comment ce vide aujourd'hui nécessite des politiques publiques adaptées, etc. etc.
D'accord. Il y a une rue pilote.
Ouais, Vinci, Richer Associés, je crois, c'est tous ces gens-là qui ont travaillé dessus.
On ira voir François Riossec. Voilà, on arrive au terme de cette passionnante discussion. On va demander un mot de conclusion à chacun, si vous voulez bien. Et ça a été très riche. Effectivement, on a eu des constats un petit peu alarmants avec des gens qui ne se parlent pas toujours. Mais heureusement, il y a des pistes de solutions. Bonne nouvelle, on va reparler du ZAN, voire l'aménager. On va en tout cas en rediscuter, réouvrir le débat. Et puis, on parle d'aménagement d'une manière plus globale. On a l'impression que ça n'a jamais été autant au cœur du débat de la fabrique de la ville.
Oui, nous avons beaucoup rencontré toutes les associations d'élus, et je dirais aussi bien les maires des ruraux que les petites villes et les villes moyennes et les métropoles. Et la thématique de l'aménagement qui avait disparu. Alors, aménagement, c'est l'aménagement du territoire, bien sûr, mais aussi l'aménagement urbain, les projets d'aménagement, c'est une thématique effectivement qui revient. Et qui revient parce que dans une période où on a un sentiment d'un éclatement de la société, des interactions de toutes ces crises, énergie, climat, etc., on se rend compte que c'est dans un projet et dans une vision globale qu'on aura des solutions sociétales et des solutions sociétales à mettre en œuvre qui nécessite des actions complexes et également des investissements financiers qui peuvent être supportés par les projets d'aménagement qui sont aussi des outils. Et c'est bien notre vision que nous avons. Donc, Nous partageons votre enthousiasme sur le fait que l'aménagement revient sur le territoire, sur le devant de la scène. Et puis, effectivement, notre conversation là, vient d'ouvrir, je pense, des horizons sur un partage d'expériences plus fort entre nous, opérateurs, et puis les agences d'urbanisme, vous le citiez tout à l'heure, les élus locaux, dans cette interaction également avec les représentants de l'État dans les différents territoires. Je crois que c'est cette relation que nous pouvons avoir, nous qui sommes sur le nez dans le guidon, et c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est d'avoir le nez dans le guidon, le nez sur des opérations parfois difficiles plusieurs plans, et en même temps anticiper dans la relation qui permettra une meilleure prise en compte de nos projets.
Jean-Marc Ravenard, en mode conclusion, vous nous avez parlé de territoires périurbains, de porosité des sols, mais aussi de l'action publique avec ces agences d'urbanisme et ce dialogue à réinstaurer. Qu'est-ce que, en mode conclusion sur nos débats?
Moi, je pense que le sursaut de l'action publique, puisque c'est un peu ça que je connais, passe par une remobilisation de l'expertise. Voilà, moi, je crois vraiment que... Alors, on ne va pas réinventer le siècle des Lumières. Hein. Les Lumières sont un peu tamisées, mais pour autant, il faut bien que l'action publique s'organise autour d'un certain nombre d'idées consensuelles sur les ordres de grandeur, sur ce qui est dit année après année par les rapports officiels. Quoi. C'est ça qui est un peu troublant, vous le disiez. La Cour des comptes, par exemple, dit énormément de choses extrêmement intéressantes, par exemple aussi sur la décentralisation. Je pense que... Il y a peut-être une nouvelle phase de la décentralisation à venir. Là, c'est aussi une occasion à saisir pour repenser un peu la nécessaire coopération à la fois entre collectivités territoriales et entre les acteurs publics et les acteurs privés.
Razi Hamadi, ouais. Alors peut-être Lumière Tamisée, siècle des Lumières Tamisées, mais vous nous avez parlé quand même de progrès et puis de technologie. On a l'impression que ça aussi, ça peut nous aider hein, dans cet aménagement de demain, outre le fait que il faut rétablir aussi le dialogue entre les différentes parties prenantes.
Oui, le progrès et la technologie, il y a évidemment beaucoup de technologies qui peuvent... j'aime bien prendre cet exemple de la crise Covid. Pendant la crise Covid, il n'y a aucun outil de la Smart City qui, en France, a été utilisé en termes de politique publique dans le cadre de la crise du Covid. Et on nous dit la Smart City... Je pense qu'il y a des...
On a une appli.
Ouais, non. Mais par exemple, je rappelle juste parce que vous en parlez, mais le compteur Linky et son successeur, ça a coûté 5 milliards d'euros quand même. Et aujourd'hui, on ne les utilise même pas pour calculer l'efficacité énergétique d'une rénovation dans un immeuble avant et après. Ils ne sont même pas mobilisés à cet effet, mais ça serait un début d'utilisation. Donc la technologie, je suis plutôt moi pour penser d'abord que les gens et que les spécialistes et que les décideurs publics progressent dans leur façon de penser.
Oui.
Plutôt que, et donc j'en resterai au niveau des valeurs, et je citerai un architecte, pour le coup, Paul Chemetov, qui écrivait la chose suivante, qui je pense s'applique très bien à l'aménagement. Et il disait, si on veut traduire pour la ville la devise républicaine, donc on reste au niveau des Lumières, même si elles sont tamisées, liberté, égalité, fraternité, je crois que pour l'aménageur du 21e siècle, la liberté, c'est la mobilité, l'égalité, c'est la polarité, et la fraternité, c'est la mutualisation.
Voilà pour cette conclusion. Razi Hamadi, donc directeur général associé de New Tank City, Jean-Marc Hoffner, président du conseil stratégique de l'école urbaine de Sciences Po, et François Riosec, président de l'UNAM. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. En continuant quelques instants, on va parler sobriété foncière.
Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Immo et Radio Territoria.